cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jean-d'Arc, le 13 juin 1991.
J'espère que vous avez compris ce que c'était que la qualité d'un sportif. Que vous y avez pensé au moins, dans l'exercice. Il y a diverses manières de jouer, une manière qualitative, qu'est-ce que c'est? Une manière brutale, une manière quantitative et une manière qualitative. L'élégance d'un jeu. Vous voyez la qualité. Nous avons essayé de préciser, au point de vue métaphysique, la forme. Et comment, d'autre part, la forme n'est pas la qualité, mais la qualité est une forme. La relation est une forme, et elle n'est pas la qualité. C'est donc pas n'importe quelle forme. Forme qui est prise pour elle-même, capable d'ennoblir cette chose que Saint-Thomas reprendra, capable d'ennoblir, c'est-à-dire une forme qui vient donner à l'être qu'elle détermine une noblesse spéciale dans le sens même de la nature de cet être, de la substance de cet être. Permet à la substance de s'épanouir dans l'ordre sensible, lorsqu'il s'agit d'une nature physique, dans l'ordre spirituel, de s'épanouir, c'est-à-dire permettre à la substance de rayonner. Aristote dit que la qualité est une différence de la substance. Parce que qui dit différence de la substance dit que la substance va par la qualité se distinguer des autres réalités. Mais à la substance vraiment de se à la fois de rayonner, de se manifester. Parce que la manifestation, c'est un rayonnement. Mais ce rayonnement et cette manifestation peut se réaliser aussi dans l'opération. Et la passion. Ce n'est pas l'action, ce n'est pas la passion. La qualité n'est pas un devenir, elle n'est pas une opération. Mais il y a des opérations qui étant dans la ligne même de la substance et de la nature, qualifient Mais il y a des opérations qui dégradent. Au plan moral, c'est très net. Il y a des opérations qui sont le péché. Et des opérations qui sont, au contraire, ce qui permet à l'être d'atteindre sa fin. C'est pour ça que la qualité ennoblit et permet le dépassement. Ce n'est pas le dépassement lui-même au sens strict. Ce serait l'acte. Elle oriente vers l'acte, puisque la qualité peut qualifier une opération. Et une opération, comme nous le verrons, c'est de l'ordre de l'acte. Et la qualité qualifie une opération. Donc, elle dépasse la distinction d'une certaine manière, substance et acte. Quand je dis la dépasse, ça ne veut pas dire qu'elle est au-delà de l'acte. Mais elle se trouve du côté de l'opération. C'est pour ça que ce domaine extrêmement vaste de la qualité, et c'est ce qui fait aussi la difficulté de préciser exactement ce qu'elle est, l'ennoblissement, la différence. Les différences, vous voyez, pour nous, différence, il n'y a pas toujours dans l'aspect de la différence cet aspect qualitatif pour nous. Peut-être parce qu'on est trop habitué à une pensée dialectique. Alors on voit tout de suite la différence en opposition. Alors que je crois que la diaphora exprime pour le grec et dans la pensée grecque beaucoup plus quelque chose qui s'impose. Mais quand on dit une œuvre d'art s'impose, elle est qualifiée. Un ouvrier qualifié, il s'impose. Une opération qualitative, elle s'impose. La diaphora. Je crois que la différence, c'est ce qui s'impose, parce que ça montre l'originalité et la distinction des autres. Et nous avons, nous, une conception trop dialectique de la différence. Ça comprend. C'est pas étonnant, depuis Hegel, la diaphora est devenue dialectique. Et je crois qu'il faut reprendre un sens de la diaphora. Donc, différence de la substance, le reprendre du côté beaucoup plus de la détermination qui s'impose. Ce qui est en puissance ne s'impose jamais. On en fait ce qu'on veut. Vous maniez un être en puissance. C'est pour ça que pour manier les êtres humains, il faut d'abord supprimer leur finalité. Un être finalisé, vous ne pouvez pas le manier. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas le manipuler. Tandis qu'un être qui n'est pas finalisé, qui n'est plus finalisé, qui ne sait pas ce que c'est, qui est d'être orienté vers sa fin, est manipulable. Alors là, vous voyez tout de suite la différence entre le domaine quantitatif et le domaine qualitatif. Et ce serait une manière, je crois, psychologiquement, pour nous, très intéressante à voir. Un être, vous en faites ce que vous voulez, mais la bonne pâte, on voit très bien ce que c'est que la bonne pâte. On peut en faire ce qu'on veut. Alors cette immense... Sa d'immense qualité, la bonne pâte. N'est-ce pas? Parce que vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est justement un être qui n'a plus de qualité. Et c'est extrêmement curieux que dans le langage, on dit à la fois que la bonne pâte, c'est merveilleux. Et en même temps, c'est un être qui n'a plus de physionomie, qui n'a plus de caractère. Une œuvre faut narguer du caractère. Elle a des qualités. Vous n'en faites pas du tout ce que vous voulez. Elle s'impose. Et il y a dans la qualité quelque chose qui s'impose. C'est peut-être cela qui ferait comprendre le caractère propre de la forme qualité. C'est une forme qui s'impose à nous, en raison même de son indivisibilité. Alors, ce n'est pas l'acte, mais c'est l'indivisibilité de la forme. Donc, tout l'aspect potentialité est actué. Tout l'aspect potentialité est vraiment dans sa détermination. Alors elle s'impose. Et ceci, c'est très curieux parce que ça se manifeste aussi bien dans les qualités sensibles. Une qualité sensible a quelque chose d'indivisible. Mais vous ne pouvez pas mesurer une qualité. Elle s'impose. Dès que vous mesurez quelque chose, vous le relativisez. Vous mesurez une table. Vous la relativisez à la mesure. Une mesure purement conventionnelle. Vous mesurez une quantité d'eau. Vous la relativisez à la mesure. Et à ce moment-là, au point de vue utilitaire, on peut s'en servir. Parce qu'on la connaît. On la connaît d'une manière utilitaire. Parce qu'on l'a mesurée. Quand vous n'avez pas mesuré quelque chose, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est inutilisable. On ne peut pas la mesurer. Tu ne peux pas la dominer. En mesurant, vous dominez. Et vous pouvez utiliser la chose. La qualité a quelque chose de réfractaire à la mesure. Mais alors c'est curieux, parce que Hegel montre comment la qualité conduit à la mesure, dialectiquement. Alors que la qualité est réfractaire à la mesure. Dans ce sens qu'elle ne peut pas être mesurée. Quand vous mesurez une qualité, vous la ramenez à quelque chose qui n'est pas elle. Et donc, elle n'est plus la qualité. Alors ça, c'est très important pour comprendre la manière dont les sciences modernes, aussi bien physiques que biologiques, que humaines, au fond, ne saisissent pas la qualité. Parce que ce sont des sciences qui mesurent tout. Quand vous voulez voir si quelqu'un perd la qualité propre de l'audition, vous essayez de mesurer jusqu'où il entend les sons. C'est de mesurer les appareils particuliers. Pour la vue, c'est la même chose. Et donc, vous ne voyez pas la qualité, mais vous voyez ceux qui, dans ces qualités, ce pouvoir d'entendre, ce pouvoir de voir, est mesurable. Oui, il y a du plus et du moins. Donc, vous le ramenez au mesurable. Et ce mesurable n'est pas la qualité, mais est le fondement de la qualité. Parce que toutes les qualités sensibles sont fondées sur la quantité et donc sont mesurables. Tandis que la qualité elle-même n'est pas mesurable, elle est réfractaire à la mesure. Elle est indivisible. Dans le domaine sensible, c'est très net. Alors vous pouvez comparer. Comparer n'est pas mesurer. C'est pas la même chose. L'indivisible, comme tel, peut se comparer à autre chose. Mais en le comparant, vous ne saisissez pas ce qu'est la qualité. C'est pour ça que c'est si difficile, parce que ou vous la saisissez, ou vous la saisissez pas, la qualité. Et c'est très net dans le domaine sensible, des couleurs. Vous saisissez telle couleur pour elle-même. C'est la faute. Et c'est, je crois, cette perspective de Platon qui dit la forme en soi. La forme en soi. soi, c'est justement saisir cette détermination pour elle-même, en dehors de son support, en dehors de son fondement. Vous l'isolez, vous la prenez en soi pour saisir son indivisibilité. La blancheur. Oui, le blanc en soi. Vous l'isolez du sujet. Je crois que cela, c'est la qualité qui maintient ça. Vous voyez, c'est pas le principe. Il faut toujours chercher pourquoi Platon tourne des formes en soi. Est-ce que ce n'est pas parce que justement sa philosophie est une philosophie de la qualité? Et que le propre de la qualité, c'est d'essayer de trouver la détermination prise pour elle-même, indépendamment de son sujet. Oui, vous passez de blanc à blancheur. Pourquoi cet effort de l'intelligence? Pourquoi l'intelligence fait-elle ça? Pourquoi l'intelligence aime-t-elle l'abstraction formelle? Eh bien, je crois que c'est la qualité qui réclame ça, qui demande ça, parce que je veux saisir cette forme en elle-même et pour elle-même. Donc, je veux saisir l'indivisibilité de cette forme et non pas la manière dont elle existe. Et saisir l'indivisibilité de cette forme, c'est justement la saisir pour elle-même, en elle-même. Et au fond, c'est le problème de la qualité, ça. Faites pas ça du tout pour la quantité. Vous n'éprouvez pas du tout le même besoin pour la qualité, pour la quantité. Parce que la quantité, on la saisit du côté de son extension. La qualité, pas du tout. Saisir la qualité du côté de son extension, c'est justement la ramener à la quantité. Et à ce moment-là, vous pouvez la mesurer. Là, vous comprenez le mouvement dialectique qui, au fond, dégrade la qualité. Et c'est peut-être ça qui serait le plus intéressant à montrer. Une connaissance dialectique, c'est une dégradation de la qualité. Et qu'une connaissance dialectique fait que on ne veut plus se soumettre à quelque chose qui nous dépasse. Et on veut, au contraire, cette chose qui nous dépasse, la saisir dans la mesure où on la domine. Et donc, on la saisit plus. Elle se dégrade. C'est la qualité qui est l'ennemi numéro un de la dialectique. Et c'est pour ça que c'est si important pour nous, dans un monde dialectique, dans un monde où tout se ramène à la dialectique, c'est extrêmement important pour nous de saisir l'antidote de la dialectique. Bien, c'est revenir à la qualité en essayant de comprendre que la qualité ne se mesure pas. Elle est irréductible à cela. Alors, vous saisissez en premier lieu dans le domaine sensible, dans le domaine de la couleur. Les qualités, les qualitates sensibiles, c'est justement ces qualités sensibles et les passions. Vous avez dans le domaine sensible, du côté de la connaissance, quelque chose d'irréductible. Et du côté affectif, quelque chose d'irréductible. C'est l'importance de la passion et l'importance des qualités sensibles. C'est qu'elle implique quelque chose de direct, d'immédiat. Oui. Pourquoi la qualité est-elle l'antidote d'une connaissance dialectique? C'est que la qualité demande d'être saisie immédiatement, sans métaxu, sans intermédiaire. Dès qu'il y a un intermédiaire, vous ne saisissez plus la qualité. La qualité demande, au point de vue sensible, d'être saisie immédiatement. Et du côté affectif, c'est la même chose. La première passion, c'est l'amour. Oui. Les 10 autres passions sont des modulations d'amour. Et l'amour échappe à toute mesure. L'amour se saisit pour lui-même la passion amour. Et toutes les autres passions se saisissent en fonction de cette passion première qu'est l'amour. L'amour, vous saisissez la passion amour en elle-même et pour elle-même comme quelque chose d'unique. C'est pour ça que la connaissance psychologique ne peut pas saisir ce que c'est que l'amour. Comme la science des connaissances qualitatives, des connaissances, des qualités, ne saisit pas non plus la qualité, mais ramène toujours la qualité au mesurable. Vous saisissez la même chose dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, l'habitus est une qualité. C'est même la qualité spirituelle, l'habitus. Quand vous essayez de comprendre ce qu'est l'habitus, ce qu'est cette qualité particulière de l'habitus, quel est l'habitus, le plus habitus, c'est la sagesse. La sagesse est dans l'ordre spirituel ce que l'amour est dans l'ordre passionnel. L'amour sensible, l'amour affectif, la passion. L'habitus, sagesse, est quelque chose d'ultime. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus ultime, puisque ce qu'il y a de plus ultime, ce sera le fruit de la sagesse, qui sera la contemplation. La contemplation dépasse la qualité. La contemplation qualifie. Mais ce n'est pas le propre de la contemplation. Puisque la contemplation, c'est de regarder l'autre et de le contempler. Tandis que la contemplation, en tant que qualité, qualifie celui qui contemple. Mais c'est pour ça que quand vous regardez la contemplation en tant qu'elle vous qualifie, vous ne contemplez plus. Vous regardez la manière dont la contemplation vous qualifie. Et regardez la manière dont la contemplation vous qualifie, ce n'est plus contempler. La contemplation vous met au-delà de vous, vers l'autre. Vous pourriez me dire, est-ce que dans l'amour il y a quelque chose d'analogue ? Pas dans la passion, mais dans l'amour spirituel, oui. Alors c'est ça qui est très curieux. Et quand vous ne distinguez pas l'amour passionnel de l'amour spirituel, vous ramenez l'amour à la qualité. Alors que l'amour spirituel n'est pas la qualité. C'est un acte. Il me met relatif au bien et qui me fait tourner tout entier vers le bien. Et donc, ne me qualifie plus, puisque me fait sortir de moi. L'extase, comme telle, ne me qualifie pas. Elle me fait regarder l'autre et être tout entier vers l'autre. Tandis que quand je regarde l'extase en tant qu'elle me qualifie, je ne regarde plus ce qui caractérise l'extase, mais l'aspect subjectif de l'extase. Qui me qualifie. Donc, quand il s'agit de la passion qualifie. C'est ce qu'il y a de plus noble dans la passion, c'est de me qualifier. C'est ce qu'il y a de plus grand dans la passion, c'est de me qualifier. C'est ce que les stoïciens n'ont pas saisi. Vous voyez ? Essayez de comprendre, parce que par là, je crois qu'on saisit vraiment la qualité dans l'ordre de l'être. Elle est ce qu'il y a d'ultime dans l'ordre de la détermination et de la forme. Mais elle n'est pas ce qu'il y a d'ultime dans l'ordre de l'être. Ce qu'il y a d'ultime dans l'ordre de l'être, nous le verrons. Ce sera l'acte. L'acte n'est plus forme. Tandis que la qualité est forme. Mais elle n'est pas n'importe quelle forme, comme je le disais tout à l'heure. Elle est une forme qui qualifie. Et quelle est la forme qui qualifie ? C'est la forme prise pour elle-même. C'est la forme libérée de son conditionnement subjectif. C'est la forme libérée de sa relativité subjective par rapport au sujet. Une forme ne qualifie que quand elle est considérée en elle-même, quand elle est prise en elle-même. Tandis que la forme en tant qu'elle informe, au sens strict, ne qualifie pas, détermine. C'est l'aspect fonctionnel de la forme. Or, rien n'est plus antifonctionnel que la qualité. Ça, c'est net, parce que la fonction, c'est de l'ordre du comportement. C'est l'ordre du pose. Bien, c'est juste l'inverse de la qualité. La qualité a horreur du conditionnement. Puisqu'elle perd son originalité dans le conditionnement. C'est pour ça que le fonctionnaire, habituellement, n'est pas un être qualitatif. C'est un être d'efficacité. Et s'il n'est que fonctionnaire, il perd toute qualité. Je vous donne tout ça pour que vous essayiez de saisir ce qu'on doit saisir directement. Hein, si vous ne saisissez pas la qualité directement. Et c'est pour ça que c'est très difficile à exprimer. Puisque le langage est toujours relatif. Comme le langage est toujours relatif, ben oui, dès que vous parlez de la qualité, vous l'abîmez. Dès que vous avez saisi la qualité, vous voyez que la philosophie ne peut pas être la philosophie du langage. C'est la même chose pour le principe. Dès que vous avez saisi un principe, la substance, vous voyez que parler d'une philosophie du langage, c'est contradictoire. Parce que la philosophie veut, la connaissance philosophique veut atteindre le réel. Le réel qui est qualité. Le réel qui est principe. Le réel qui est premier. Et votre langage est toujours second. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir une philosophie du langage. Vous pouvez faire une philosophie du langage, mais ce n'est pas la philosophie. Ramener la philosophie à la philosophie du langage, c'est la négation de la philosophie. Il faut arriver à saisir ça. Or, je crois qu'il y a deux moyens. En réalité, il y en a trois. Il y a trois moyens pour bien saisir que le langage n'est jamais premier et donc il ne peut pas, la philosophie du langage ne peut pas être la philosophie. C'est la saisie de la substance, la saisie de la qualité, la saisie de l'acte. Vous avez trois pointes au-delà de toute relativité. La science peut demeurer dans la relativité. La science physique. La philosophie ne peut pas demeurer dans la relativité. C'est le suicide de la philosophie de demeurer dans la relativité. Et vous avez trois dépassements de la relativité. Le principe, la qualité et l'acte. Mais l'immense avantage de la qualité, c'est que vous saisissez dans l'ordre sensible quelque chose d'absolu. Et ça, c'est unique parce que saisir l'absolu dans le principe, dans la substance, ou dans l'acte, c'est la saisir au niveau spirituel. Et c'est impliquer quand même une induction. Donc, ce n'est pas immédiat. Vous ne saisissez pas immédiatement un principe. Vous ne saisissez pas immédiatement l'acte. Tandis que la qualité a ce privilège. C'est pour ça qu'elle est relative à la substance et relative à l'acte. La qualité a ce privilège que d'être dans le domaine sensible. Quelque chose d'indivisible et donc quelque chose d'absolu. Alors ça fait comprendre le caractère très absolu de l'artiste. Parce que l'artiste, c'est l'homme de la qualité. C'est pour ça que les artistes sont si malheureux dans notre monde. Parce que nous n'avons plus du tout un monde de qualité. C'est un monde de relativité, d'efficacité. Juste l'inverse. Alors les artistes sont écorchés vifs dans un monde comme le nôtre. Et le philosophe devrait être écorché vif. S'il était vraiment philosophe. Mais les philosophes deviennent des professeurs de philosophie. Et donc s'adaptent. Et parce qu'ils s'adaptent et qu'ils deviennent professeurs de philosophie, ils ne sont plus philosophes. Parce qu'ils s'adaptent. Ils deviennent fonctionnaires en tant que professeurs. Et là, il y a des choses qui ne peuvent pas se dire dans un régime comme le nôtre. Qui ne peuvent pas se dire. Si on le dit, mais on n'a plus. On essaiera de vous mettre à l'écart. Parce que le philosophe doit être l'homme de l'absolu. Donc, l'homme qui, tout le temps, veut dépasser le relatif, veut dépasser le conditionnement. Alors, il le dépasse par la découverte de la substance, il le découvre par le point de vue de la qualité et le point de vue de l'acte. Mais, comprenons bien, ce privilège étonnant de la qualité, c'est qu'il peut y avoir une qualité sensible. Vous n'avez pas de substance sensible et vous n'avez pas d'acte sensible. Vous avez l'être sensible qui n'est pas l'être dans toute sa pureté. L'être en tant qu'être, c'est pas sensible. Mais l'être sensible est être. Il existe. Et l'être sensible qui existe dans son absolu, c'est la qualité. La forme en soi. La détermination prise pour elle-même, c'est l'indivisible. Essayez de saisir ça, c'est très important, c'est impressionnant du reste. C'est impressionnant de saisir la chaleur, la qualité de la chaleur. Ça ne se mesure pas. C'est pour ça que Descartes, avec ses gros pieds, il dit que la qualité est subjective. Le sensible propre est subjectif. Parce que sans doute qu'il n'est jamais saisi. La seule objectivité, c'est le mesurable. Seul le mesurable est objectif. Ah oui, ça va très loin, ça. Une fois que vous avez compris ça, vous ne pouvez plus être cartésien. Parce que la seule chose qui est intéressante au point de vue philosophique, c'est ce que Descartes ramène à la subjectivité. Alors pour sauver cette subjectivité, Kant parlera de la subjectivité transcendantale. Mais c'est contradictoire in terminis, hein, la subjectivité transcendantale. Parce que ce qui est transcendantal ne peut pas être subjectif. Il est absolu. Tandis que ce qui est subjectif est rapporté à ma personne. Mais c'est très curieux de voir que Kant veut retrouver une métaphysique, c'est l'intérêt, tandis que Descartes la noie, ce qui ramène tout à l'aspect subjectif, au mesurable. Alors il faut, après Descartes, après plusieurs siècles où la métaphysique est noyée, où la qualité est complètement noyée dans la relativité, redécouvrir cet absolu. Et c'est là le contact avec les artistes qui est nécessaire dans notre monde d'aujourd'hui pour redécouvrir l'absolu de la qualité. Je ne crois pas qu'on peut le redécouvrir autrement. Et c'est sans doute, vous voyez, ce que Camus a très bien senti. Il ne peut pas l'exprimer parce qu'il n'y a pas de métaphysique, mais il a très bien senti que c'était le beau qui était la seule chose qui demeurait pour redécouvrir l'absolu, le beau sensible. Alors, je ne peux pas dire que le beau sauve, comme certains le disent. Le beau ne sauve pas. Mais le beau est peut-être dernier point dans le monde sensible qui me rappelle l'absolu. Je dirais plutôt ça, c'est le cri ultime et dernier d'absolu dans le domaine sensible. C'est le cri, c'est l'appel. Si vous quittez ça, le beau dans tous les domaines, sensible, les qualités. Dans le domaine spirituel, l'habitus de sagesse. L'habitus de sagesse qui n'est pas la contemplation et l'absolu dans la détermination de l'intelligence. Vous ne pouvez rien trouver de plus déterminé que l'habitude de sagesse. Pas l'habitude de science. L'habitude de science est mesurée par l'habitude de sagesse. Donc, il est d'une qualité, mais il n'est pas la qualité. L'habitude mathématique, si noble qu'il soit, n'est pas la qualité. C'est pas étonnant, le mathématicien demeure dans la relation. Et c'est pour ça que le domaine mathématique sera très souvent le domaine qui glissera vers la dialectique. Ce que Platon a très bien saisi, à sa manière, en voyant que les mathématiques étaient ce qui permettait la dialectique. C'est pour ça qu'on entre en dialectique. Et nous dirions, nous, c'est par là qu'on quitte, vous voyez, le domaine purement analogique. C'est un tremplin. Alors, l'habitude de sagesse, c'est du côté de nos facultés, de nos puissances, de connaissances et d'aimer le lien. Et on pourrait dire que dans l'habitus de sagesse, la vérité et l'amour s'embrassent. Et c'est peut-être ce qui nous fait le mieux comprendre ce que c'est que l'habitude de sagesse. C'est que dans l'habitude de sagesse, je demeure dans la connaissance intellectuelle. C'est vraiment la connaissance intellectuelle. Mais la connaissance intellectuelle qui se fait à travers l'amour et par l'amour. Et donc, c'est l'amour qui se spiritualise de la manière la plus forte. Et c'est la connaissance qui se réalise à l'intérieur de l'amour pour ne pas perdre ce caractère immédiat. Je vous ai déjà dit, l'amour n'implique pas d'abstraction. L'amour ne peut pas être abstrait. La connaissance est abstraite. Mais la connaissance, quand elle prend conscience de ce qu'elle doit être, de la manière la plus qualitative. La connaissance est une connaissance qui atteint l'être. C'est la connaissance métaphysique. La connaissance métaphysique est la connaissance la plus qualitative. Mais dans la connaissance métaphysique, ce qu'il y a de plus qualitatif, c'est justement justement lorsque la connaissance métaphysique aboutit à la contemplation de la simplicité absolue de Dieu. Je crois que c'est cela qui est l'aspect le plus qualitatif de la connaissance humaine. Et cet aspect le plus qualitatif de la connaissance humaine ne peut se faire que grâce à l'habitude de sagesse. Et donc l'habitude de sagesse est du côté de la détermination qualitative. La détermination qualitative ultime. L'habitude de sagesse fait que mon intelligence de l'intérieur est parfaitement déterminée. Je ne dis pas qu'elle est en acte, mais parfaitement déterminée. Et donc, quand il y a l'habitude de sagesse, l'intelligence ne peut plus errer. Parce qu'elle est parfaitement déterminée. Alors, cette habitude peut grandir. Il grandira tout le temps. Au bout d'une année de métaphysique, on a l'habitude de sagesse. À l'état un peu embryonnaire, mais quand même, il y a l'habitude de sagesse. C'est-à-dire que l'aspect quantitatif du raisonnement est très présent. Au bout d'un certain nombre d'années métaphysiques, l'habitude de sagesse est présent et il peut tout le temps augmenter. Et c'est cela qui donne à l'intelligence sa vivacité, sa jeunesse. L'habitude de sagesse est à l'intelligence ce que la beauté est dans le monde sensible à la jeunesse. La beauté qualifie la jeunesse. Un visage jeune demande d'être beau. Ça qualifie le point de vue sensible. Bien, l'habitus de sagesse qualifie notre intelligence en la maintenant dans la jeunesse grâce à l'amour. Et ce n'est pas, au sens rigoureux, l'intelligence, la connaissance qui maintient à la sagesse sa jeunesse. Mais c'est l'amour dans la connaissance. C'est la présence de l'amour dans la connaissance. Tandis que toute connaissance abstraite est vieille. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien de plus vieux que la logique. C'est vieux, la logique. Hein. Parce que la logique, elle nous met en présence de quelque chose qui est le comportement de ma raison humaine. Et ma raison humaine, elle implique un exercice et donc une certaine vieillesse. Il n'y a pas de spontanéité. La logique freine la spontanéité, arrête la spontanéité de la vie de l'intelligence. Tandis que la contemplation maintient dans l'intelligence sa jeunesse, sa spontanéité grâce à l'amour. Et l'habitus de sagesse élève, ennoblit l'intelligence pour la mettre